Avec l'ancienne candidate à l'élection présidentielle et ancienne ministre Ségolène Royal. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Bonsoir.
On va parler finances publiques, débat autour du déficit public. D'ailleurs, il en est question à l'Assemblée nationale cet après-midi. Les agences de notation n'ont pas dégradé la France. L'opposition de droite dénonce un pays menacé de faillite. On va en parler, Alain, mais écoutez ce que disait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, cet après-midi au Palais Bourbon.
J'espère sincèrement que ce débat nous permettra de poser sereinement et simplement les grandes questions de finances publiques qui se posent à la France. J'espère que nous pourrons confronter des visions plutôt que des postures. Car des postures, j'en vois beaucoup depuis un certain temps. Jamais je n'ai vu autant de parlementaires soucieux de la dette publique et de l'équilibre de nos finances.
Autant de parlementaires, pas cet après-midi dans les travées du Palais Bourbon où il n'y avait personne, mais l'opposition attaque le ministre sur ce budget, sur ce déficit, et déclare même qu'on est au bord de la faillite, c'est vrai ou pas ?
Écoutez, au bord de la faillite, pas du tout. En situation d'enlisement financier, oui, ça n'est pas la même chose. On n'est pas au bord de la faillite parce que la France a une économie qui est une économie solide, qui d'ailleurs est reconnue comme telle. On a mieux traversé la crise économique postérieure au Covid que nos voisins sur le plan économique. En revanche, sur le plan budgétaire, on est dans un état lamentable. Et l'idée de dire que, par exemple, on pourrait, avec ce qui est précis et annoncé, et ce qui est envisagé et quelquefois repoussé déjà par le gouvernement, qu'on pourrait arriver de nouveau à 3% et même à 2,9% en 2027, franchement, il faudrait être très très naïf pour le croire. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'y crois pas un instant.
Ah bon ?
Non,
pas un instant. Donc le gouvernement est insincère ?
Insincère, pas forcément. Ils essayent sans doute de s'en convaincre eux-mêmes. Ou peut-être habile compte tenu. Vous savez, ils vont, dans quelques semaines, être obligés de présenter un plan de 5 ans à l'Europe. Et puis, il va y avoir, juste avant le vote des élections européennes, Standard & Poor's, qui est quand même l'agence de notation la plus sérieuse, qui va devoir prendre position. Peut-être qu'ils essayent d'être habiles aussi, ou peut-être qu'ils essayent même de s'en persuader, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je n'y crois pas. Et franchement, je trouve que c'est difficile d'y croire.
Ségolène Royal.
Alors, je pense au contraire, la situation est très, très difficile. Pas tellement à cause du déficit des finances publiques, même s'il faut toujours lutter contre les déficits. C'est évident, ça fait partie de la souveraineté nationale. Moins on a de déficit, plus on est souverain. Et moins on a de déficit, plus il y a de service de la dette et moins ça coûte cher. Et un euro dépensé doit être un euro utile en matière de dépenses publiques. Mais aujourd'hui, on a 60 000 entreprises en faillite. Le chiffre vient d'être publié. C'est-à-dire 60 000 procédures pour des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Et par rapport à cela, ce que l'on voit, c'est que ces entreprises, elles ne demandent pas la réduction de l'indemnisation du chômage. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Au contraire, c'est parce qu'il y a une forte indemnisation du chômage que les entreprises peuvent être beaucoup plus agiles et peut-être essayer de se redresser en se séparant d'un certain nombre de salariés, puis en les reprenant si ça va mieux. En revanche, là où le gouvernement devrait attaquer le problème, c'est sur la hausse des taux d'intérêt, la hausse du prix de l'énergie. La question de la crise dans le bâtiment, c'est 25% des faillites dans le bâtiment et la baisse de la consommation. Et sur tous ces sujets-là, il y a des solutions. Mais il y a des solutions dans le cadre d'options qui remettent l'État en situation de prendre des décisions économiques. Sur la crise de l'énergie, on sait aujourd'hui que, regardez les résultats total, c'est quand même aberrant ce qui se passe, même symboliquement. Regardez, il y a la faillite de Duralex, qui est comme une entreprise française qu'on a tous connue, on a tous utilisé des verres Duralex, parce qu'il y a une hausse du prix de l'énergie. Et d'un autre côté, vous avez Total qui fait des super profits et qui distribue des super dividendes uniquement parce qu'il spécule sur le prix du baril de brut.
À la pompe, le litre d'essence est de nouveau à 2 euros.
Mais le litre d'essence ne devrait pas être supérieur à 1,40
€. Chez Total, c'est plafonné.
S'il n'y avait pas de spéculation sur le prix du brut, s'il n'y avait pas de spéculation des intermédiaires qui se prennent en pourcentage du prix du brut, le prix à la pompe ne devrait pas être supérieure à 1,40 €. Et je finis juste sur le prix de l'énergie pour dire que si on sortait du marché européen de l'énergie, le coût de l'énergie en France, parce que nous avons l'énergie nucléaire, serait divisé par 2.
Donc il y a des choses à faire pour justement sortir de cette spirale de
Non, alors d'abord, il y a certains points. Il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est ce qui concerne la construction et le bâtiment. Il est évident qu'on est dans une crise qu'on pouvait voir venir et devant laquelle on n'a pas proposé de solution, disons, proportionnée à la gravité de cette crise. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Sur le reste, sur les faillites, elles sont toujours regrettables et même très souvent très cruelles, en particulier pour les salariés, mais même aussi pour les dirigeants des entreprises. Mais c'était malheureusement prévisible, puisque toutes les aides qui avaient été données dans le Covid trouvaient des fins et que malheureusement, il y avait des secteurs qui n'avaient pas retrouvé une activité spontanée suffisante, et c'était inévitable. Bon, pour le reste, il y a évidemment beaucoup de choses à régler, notamment sur le prix de l'énergie, mais vous parliez de taux d'intérêt et de prix de l'énergie, ce sont des facteurs considérables dans la situation actuelle, mais ce ne sont pas des facteurs sur lesquels on peut toujours agir seul, en particulier, par exemple, sur les taux d'intérêt, on ne peut pas. La France ne peut pas agir sur les taux d'intérêt.
La BCE peut baisser les taux d'intérêt.
Non, mais la BCE, ce n'est pas la France. La France ne peut pas dire « je baisse les taux d'intérêt ». Elle ne peut pas.
Non, mais elle peut agir.
En revanche, ce qu'elle peut faire, et c'est ce qu'elle fait, c'est peser de toute sa force au sein de la BCE pour…
Donc elle peut quand même.
Elle peut.
Ah, si.
Elle peut peser, elle ne peut pas décider.
Imposer, elle ne peut pas imposer. Ce
n'est pas la même chose. Je crois que vous vouliez m'interroger sur autre chose.
Sur la hausse des impôts.
Oui, je suis d'accord.
Est-ce qu'elle est inévitable ou pas, finalement ?
Je savais très bien que c'était une ruse pour garder la parole.
Est-ce qu'on va avoir une hausse des impôts ? Est-ce que c'est inévitable ? Est-ce que la potion amère se prépare ?
Le gouvernement dit non.
Alors, le gouvernement dit non, et même Emmanuel Macron en fait une question de principe. Moi, je vois mal comment on arrivera à éviter, de toute façon, un type de mesure. Alors, il y a une panoplie. Là, je ne vais pas la décrire maintenant, en tout cas, parce que je ne veux pas garder trop longtemps la parole, mais il y a une panoplie possible. Il y a des recettes, des techniques qui sont différentes. Mais je ne vois pas comment on y échappera, parce qu'on peut continuer à essayer de, non pas de baisser les dépenses publiques, de ralentir la hausse des dépenses publiques, ce qui est tout à fait autre chose. On peut essayer, ça restera extraordinairement difficile et contesté par tout le monde. Donc, c'est la question de l'impôt.
D'accord avec ça, il faut augmenter les impôts des plus riches.
Et ça serait une grave erreur. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir la crise économique est due en particulier à la baisse de la consommation. Si vous augmentez les impôts, vous allez encore baisser la consommation.
Ah non, mais des riches gens, on parle pas des Français.
On parle de qui alors ?
Bah si on peut parler des hauts revenus.
Ah, des hauts revenus,
parler
oui.
Des grandes entreprises.
Ça, tout le monde est d'accord.
Mais non, tout le monde n'est pas d'accord.
Si, parce que
tout le monde n'est pas d'accord.
Il y en a qui parlent d'augmenter.
Le gouvernement ne le fait pas.
Attendez, c'est Golan Royal.
Il y en a qui parlent d'augmenter la TVA. Donc ça serait une grave erreur, parce que ça diminue...
Ça a été énergiquement repoussé.
Bruno Le Maire a mis ça sur la table. Quand même.
Oui, mais Macron a dit non.
Le fait même d'agiter cette idée de hausse des impôts, sauf pour les plus riches et sauf pour les revenus du capital. Mais ça, c'est une
question...
c'est déjà pas mal, mais faisons-le.
Faisons-le au lieu d'agiter tout le temps
le sujet. Mais aujourd'hui... l'urgence, je le répète, c'est quand même de baisser les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, car viennent d'être publiés aussi les tableaux comparatifs de l'économie américaine aux États-Unis et de l'économie européenne. L'Europe est en train de s'effondrer par rapport aux États-Unis d'Amérique, ne serait-ce qu'à cause du taux de change dollar-euro, qui fait que maintenant les États-Unis achètent des entreprises européennes, qu'il y a des délocalisations, rendez-vous compte, aux États-Unis, et que la hausse du taux d'intérêt qui a été décidée en premier aux États-Unis d'Amérique parce qu'il y avait une surchauffe économique en Europe, l'inflation, elle n'est pas due à la surchauffe économique. Elle est due à l'augmentation de l'énergie et elle est due à des secteurs spéculatifs, notamment dans les grandes surfaces,
enfin, on l'a vu sur le commerce et
sur la distribution. Attends, je finis juste là-dessus.
Donc,
pour réduire les déficits, c'est d'abord relancer la croissance économique, lutter contre les faillites d'entreprises avec les éléments que je viens de donner, relancer impérativement le bâtiment. Et ça, chaque fois qu'il y a un recul, vous l'avez vu, sur les dépenses écologiques en matière d'isolation du bâtiment, c'est un coût qui est porté au bâtiment, alors qu'il y a un potentiel de croissance verte et d'économie d'énergie. Et si on lance tous les chantiers d'isolation
énergétique... Les nouvelles normes qu'on met en place aussi, ça parfois paralyse quand même le marché.
Mais non, le gouvernement vient de baisser les subventions aux collectivités territoriales qui font des travaux d'isolation pour les écoles, par exemple. Mais c'est très mauvais, ça. Au contraire, c'est des éléments de croissance verte. Et enfin, quand même, on a 200 milliards d'aides de dépenses publiques pour les entreprises. Donc, la moitié pour les grandes entreprises du CAC 40.
Ben oui.
On a 7 milliards du crédit d'impôt recherche, essentiellement sur les entreprises du CAC 40. Est-ce que vous trouvez normal que Total touche des subventions?
Alors,
de crédit impôt Attends, je finis juste. Donc, on peut récupérer au moins 100 milliards.
Non.
Et le problème est réglé sur les 200 milliards d'aide économique aux entreprises.
Non.
Mais regardez, c'est occulté, c'est jamais mis à plat.
Il y a au moins une mise à plat.
On supprime brusquement les aides aux entreprises,
on s'affaiblit.
Il ne faut pas raconter l'histoire.
Aides aux entreprises du CAC 40.
Et aux entreprises publiques.
L'aide publique,
c'est la dépense publique.
C'est pas la même chose, entreprise publique et aide publique.
Pas l'entreprise publique.
C'est
une lapsus, je voulais dire, ce sont des aides publiques.
C'est-à-dire,
ce sont nos impôts qui payent les subventions à Total. Est-ce que vous trouvez que c'est normal?
S'il s'agit, puisque vous-même en parliez, de la niche... sur la recherche dont on parle pendant des années.
Mais faisons-le.
Attendez, je vous rappelle au passage quand même que la gauche les a maintenus.
Pour les PME.
Non. L'impôt crédit recherche. Tout le monde dit qu'on peut faire des économies à cet endroit et personne ne le fait. Ça dure depuis 15 ans.
Je vais vous dire.
C'est ce que souhaite Ségolène Royal, qu'on remette à plat.
Quand on donne le nom des entreprises.
Et le montant d'argent public.
Est-ce que vous savez que Total vient d'annoncer qu'il se délocalisait à la bourse de New York. L'entreprise Total française.
C'était envisagé.
C'est pas une bonne nouvelle.
C'est une très mauvaise nouvelle.
Spéculatif.
J'ai une question à vous poser.
Emmanuel Macron
dit ce n'est pas un problème de dépenses, donc pas question visiblement de trop limiter les dépenses publiques, c'est plutôt une question de recettes.
Oui.
Quand la croissance reviendra, il y aura plus de recettes fiscales. Moi, j'entends aussi à droite qui disent si, il faut à un moment donné tailler dans les dépenses publiques. La France est l'un des pays, peut-être le pays au monde, qui redistribue le plus d'argent public.
Non, mais ça, que la France soit le pays au monde qui ait le maximum de dépenses publiques.
Pour une efficacité qui est parfois contestable.
Je crois que sur les dépenses publiques, personne ne dira qu'on a peu de dépenses publiques, on a beaucoup trop de dépenses publiques. On a un chiffre qui est effectivement un handicap. Maintenant, quand on dit il faut les réduire, ceux qui disent il faut les réduire ne disent jamais aux dépens de qui. Ils disent des choses très générales. Mais si on leur dit oui, mais le budget de quel ministère, le budget des collectivités territoriales, le budget de la sécurité sociale, moins les hôpitaux bien entendu, mais de la sécurité sociale, à ce moment-là, ils deviennent muets. Et simultanément, au moment où ils disent il faut faire des dépenses publiques, les mêmes disent oui, mais par ailleurs, il faut quand même augmenter le budget ici. Et puis augmenter le budget là. C'est-à-dire qu'ils disent tout et leur contraire, sauf la vérité.
Mais en 2017, Emmanuel Macron se fait élire en promettant de baisser le nombre de fonctionnaires. Il ne l'a pas dit en 2022.
Absolument pas le sujet, ça. Le sujet est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave.
C'est le sujet de la dépense publique.
Le sujet, ce sont les faillites d'entreprise, comme je le disais à l'instant.
On ne limite pas les dépenses.
Mais c'est le ralentissement économique. Si on relance la machine économique, effectivement,
on ne peut pas la relancer.
C'est ça qui est très grave. C'est très, très grave ce qui se passe. 60 000 faillites, ce n'est pas rien du tout.
Vous dites que ce n'est pas grave,
ça existe toujours. Mais non, c'est 30%.
Non, je ne vous ai pas dit, ce n'est pas grave.
C'est 30% de plus que l'année dernière qui, l'année dernière,
visible.
Non, pas du tout. Si on avait agi sur le prix de l'énergie, il n'y aurait pas autant de faillites. Il n'est pas trop tard. Il faut sortir du marché européen de l'énergie. Si on baissait les taux d'intérêt, c'est-à-dire si on arrivait à convaincre l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui veut des taux d'intérêt élevés, si on arrivait à être unis au niveau européen pour baisser les taux d'intérêt, ne serait-ce que pour résister à la reprise économique américaine, on y arriverait. Si on relance le bâtiment dans la filière des économies d'énergie, on relance le bâtiment et on crée des emplois. C'est ça la dynamique d'un pays. Mais pour ça, il faut qu'un pays soit uni et solidaire. Si vous en prenez au chômeur, ou si vous en prenez à la santé, vous allez frapper les classes moyennes et vous allez frapper les jeunes.
Un pays doit être solidaire.
Dis un mot de Sciences Po.
Un pays uni et solidaire, on n'est pas un pays uni et solidaire.
Pour ça qu'il faut que les efforts soient équitablement répartis.
Deux, je suis d'accord pour que les efforts soient réellement répartis.
Pas sur les chômeurs.
De façon équitable. Mais non, mais je ne vous parle pas des chômeurs.
C'est le projet.
Ben oui, mais ce n'est pas mon projet.
Ah oui.
Donc, je ne vous dis pas que je suis d'accord. Ce n'est pas du tout ma sensibilité. Bon, mais au-delà de ça, l'idée qu'on puisse ne pas ralentir les dépenses, je ne dis pas diminuer, je sais que c'est une utopie, mais ne pas ralentir les dépenses et ne pas augmenter d'une façon ou d'une autre les ressources, eh ben non, si, on sera obligé de passer par ça.
On peut diminuer les dépenses, alors, les aides à l'économie financière.
Qu'on sorte
et la contribution, regardez, juste un dernier exemple.
Rapidement.
La hausse des taux d'intérêt. Oui. Ça a créé des bénéfices considérables dans les banques. Pourquoi il n'y aurait pas une contribution des banques quand même à la résorption du déficit public? Mais c'est ça l'ordre économique. Alors, juste.
Il y a des idées qui ont été émises ce soir dans le débat, c'est contradictoire. Mais
là,
voilà.
Non, là où il y a des flux spéculatifs, que ça soit réinjecté.
Alors,
dans l'économie.
Ségolène Royal, Alain Duhamel, je voudrais qu'on dise un mot sur deux institutions. Une que vous connaissez bien, puisque vous y avez été étudiant et vous y avez enseigné. C'est Sciences Po, Sciences Politiques, et la Sorbonne, où il y a eu un peu d'agitation pour soutenir les Palestiniens contre les Israéliens, avec même des demandes de rompre certains accords qui pouvaient être en cours avec Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain, de ce qui s'est passé, notamment à Sciences Po?
Bon, écoutez, je ne vais pas vous dire que je suis surpris, hein, franchement. D'abord, au mois de mai, il y a toujours des contestations. Ensuite, il y a un vrai problème qui est effectivement le problème de Gaza. Et que des étudiants y soient particulièrement sensibles et se mobilisent autour de ça, ça ne m'étonne pas et ça ne me choque pas. Je trouve normal qu'ils se mobilisent et qu'il y ait des étudiants, pas les étudiants, des étudiants, parce que aussi bien à Sciences Po qu'à la Sorbonne, pour l'instant, ceux qui manifestent sont extrêmement minoritaires. Mais il n'empêche que cette sensibilité-là existe, ça ne m'étonne pas et je trouve que c'est compréhensible. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est si on empêche un débat équitable d'avoir lieu, si on veut que X ne puisse pas entrer ou que Z n'ait pas le droit de faire une conférence. Alors là, je suis complètement contre cette méthode-là et il y a toujours la question de savoir qui s'exprime au nom de qui et pourquoi on ne fait pas s'exprimer les autres. Et de ce point de vue, je trouve que là, il y a des défaillances importantes.
Mais on a vu des responsables politiques, notamment des députés de la France Insoumise, venir soutenir, même encourager les étudiants de Sciences Po de la Sorbonne. J'ai entendu Manuel Bompard dire qu'il faudrait que ça se passe dans toutes les facs. Rima Hassan, la candidate activiste franco-palestinienne qui est sur la liste des Insoumis, dit qu'il faut un soulèvement général. Mm-hmm. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ont raison, c'est leur place?
Moi, je partage l'avis qu'Alain Duhamel vient d'exprimer, parce que les lieux universitaires et les grandes écoles sont des lieux de liberté d'expression. Voilà. Et si c'est un peu tonique.
À condition que tout le monde puisse s'exprimer.
Ça l'est. À condition que tout le monde puisse s'exprimer. Et ce qui est regrettable, c'est que dans une démocratie telle que la France et dans les universités françaises, il ne puisse pas y avoir des débats sereins, même des confrontations assez fermes.
Sur le conflit israélo-palestinien, c'est rarement serein, Ségolène Royal.
Non, mais et pourquoi pas?
Comment est-ce qu'il y aura des discussions
au sein de l'Organisation des Nations Unies pour faire revenir la paix? Parce que c'est quand même l'objectif.
Mais là, on parle d'étudiants.
Mais justement, si on ne fait pas aussi un effort dans les universités. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des enseignants, des chercheurs, des présidents.
Oui, mais les politiques, c'est leur place.
Les présidents d'université. Bien sûr, les politiques, c'est leur place et leur liberté.
Vous auriez
c'est la liberté d'expression, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle à la continuité des cours, ça c'est logique. Qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'ordre public, ça c'est logique. Et qu'il y ait une liberté d'expression de tous les points de vue.
Merci Ségolène Royal. Merci Alain Duhamel.